Bonjour et merci à Daniel Hénard de nous accueillir pour évoquer cet ouvrage, Le Grand Flot, qui est paru initialement en 1979, donc il y a plus de 40 ans, et qui vient d'être réédité par les éditions des Bons Caractères. Alors Daniel, donc c'est un roman qui commence au milieu du 19e siècle, à Clamecy, dans la Nièvre, parmi les flotteurs de bois. Est-ce que tu peux un peu nous décrire ce milieu, cette profession des flotteurs de bois, et puis nous dire comment tu t'es intéressé à ce monde qui est aujourd'hui assez peu connu?
Oui. Ce métier n'existait pas avant 1547. C'est un vieux métier qui n'existe plus depuis une bonne centaine d'années. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il est oublié aujourd'hui. C'est arrivé à d'autres professions. Le métier de flotteur est né d'une nécessité. Une nécessité parisienne. À Paris, comme dans toutes les villes et grandes villes d'Europe, il y avait un besoin d'énergie pour chauffer les gens, chauffer les fours des boulangers, des ferronniers, tout un tas de petits artisans qui avaient besoin de chaleur. Mais si on considère l'année 1547 dont je parlais, la population de Paris tourne autour de 200 000. Et elle ne fera que croître. En 1847, elle tournera bientôt au million, et 40 ans plus tard, à 2 millions. Il y a une croissance exponentielle, comme on dit aujourd'hui, de la population. Et il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, c'est que la source d'énergie qui est le bois, à cette époque-là, il n'y a que le bois. Le charbon n'est pas encore consommé, il le sera, mais pour l'instant, c'est le bois. Et pendant presque 4 siècles, 3 bons siècles, c'est le bois qui sera la source d'énergie. Écologique, on dirait aujourd'hui. Eh bien, le fait est que cette consommation de bois, elle a cru avec l'accroissement de la population. Il y a eu un besoin fou de bois. On a risqué à cette époque-là, c'est le début du XVIe siècle, c'est François Ier, on risquait la pénurie. Les bois autour de Paris, d'abord ils étaient la propriété de nobles qui ne laissaient pas couper leur bois comme ça. Alors, les petites forêts domaniales, communales, ont été exploitées, surexploitées, et il n'y avait plus de bois pour Paris. C'est un peu rapide de dire les choses comme ça, mais le mot est bon, c'était la pénurie.
Donc on va le chercher plus loin, quoi.
Mais on l'avait cherché plus loin, et on savait bien que pas trop loin de Paris, il y avait d'autres forêts. On a la forêt de Fontainebleau, etc. On a tapé dedans, mais le vrai réservoir qu'on a découvert, c'est le Morvan, le massif du Morvan. Des hectares de forêt à n'en plus finir, elle est toujours là, cette forêt d'ailleurs. Et c'est dans cette forêt-là qu'on a puisé le bois.
Alors donc le bois, il est transporté le long d'abord de Lyon, puis de la Seine jusqu'à Paris, donc c'est un périple qui est assez dangereux. Hein.
Oui, il faut dire que cette pénurie, si elle s'était poursuivie, faisait courir à la capitale le risque de devenir, de rester ou de décroître, de devenir une ville modeste. Au moment de la pénurie, des idées se sont révélées dans des cerveaux. C'est toujours comme ça que les choses se passent. Et on a décidé que on adopterait une manière de transporter le bois tout à fait nouvelle. Nouvelle, oui et non. Nouvelle dans la mesure où ce qu'on voulait faire, c'est livrer des bûches. On ne pouvait pas livrer des troncs à Paris. Mais livrer des... Puis alors, au fil de Lyon et de la Seine, c'était impossible. Donc il fallait livrer du bois coupé. Couper le bois, il y avait ce qu'il fallait. Des sueurs de bois, il y en avait. Mais comment trimballer des millions de bûches vers Paris? On avait l'expérience de Par exemple, sur la petite rivière affluent de la Seine, l'Andelle, où les gens du cru lançaient leur bûche dans la rivière, la faisaient flotter, comme ça, carrément. Et quand ils avaient besoin, ils crochetaient. Mais c'était vraiment modeste. Mais cette petite idée-là, ça a été une idée retenue par, oh, peu importe les noms, par un personnage qui s'est dit, mais moi, je vais aussi faire le flottage à bûche perdue, c'est comme ça qu'on disait, pour emmener du bois en grande quantité. Mmh. Alors il a bricolé, ça n'a pas marché, mais il travaillait pour le compte d'un monsieur, un bourgeois, qui s'appelait Jean Rouvet, et qui a mis à profit l'essai de son subordonné pour imaginer qu'on allait assembler les bûches, couper, et les faire voguer comme ça jusqu'à Paris.
Bon. Ça fait un train, ce qu'on appelle le train.
C'est le train. Alors, naturellement, le train, c'est du bois, c'est un ensemble de bûches énormes. 20 stères à la fois. Des millions de bûches. 20 stères à la fois. Mais 20 stères à la fois, on ne peut pas les jeter à l'eau comme ça. Comment est-ce qu'on les récupérerait? Donc, on les assemble. C'est un assemblage. Un assemblage ingénieux qui, d'ailleurs, est très difficile à retrouver dans les archives, comment les gars fabriquaient ça. Ah oui. Vraiment, les petites mains du bois, là. Et ils assemblaient les bûches. Alors, je vais faire un petit saut en arrière. D'où viennent les bûches? Elles viennent de la forêt du Morvan. Une forêt qui a des propriétaires, et des propriétaires qui trouvent là l'occasion de se faire de l'argent, puisqu'ils vont pouvoir vendre du bois qui sera chauffé à Paris. Mmh. Ils sont souvent parisiens eux-mêmes, d'ailleurs. Mmh. Ils délèguent leur fonction sur place à des faiseurs de flottage, comme on les appelait. Et ces gens-là, les propriétaires, et puis ceux qui travaillaient pour eux, rassemblaient à des moments convenus dans l'année, à peu près toujours les mêmes, des scieurs, des bûcherons, tous les gens qui mettaient la forêt en coupe. Si je puis dire, écologiquement, car on n'abattait pas n'importe quel arbre. C'était, comment est-ce qu'on dit aujourd'hui, une énergie renouvelable. Vraiment renouvelable. N'oubliez pas, la chose a duré presque 4 siècles. On aurait pu épuiser la forêt, mais on l'a fait intelligemment. Chaque année, c'était repéré de manière à ce que, dans les années qui suivent, on avait de nouveau. Alors, coupage du bois, hein, tronçonnage, coupage du bois à ce qu'on appelait des moulées, parce qu'on passait une espèce de moule pour qu'elle soit tout à peu près calibrée, hein, calibrée à peu près comme ça. Coupé à 1,14 m, c'est le système métrique qui a donné ça, c'était une autre dimension. Coupé, et ce bois qui était là, par terre, dans la forêt, il fallait l'emmener au fleuve.
La rivière.
Alors la rivière, elle n'est pas à côté.
Oui.
Quand on connaît le Morvan, c'est un ruissellement de petites rues, des ruisselets, des étangs, etc. Donc, le premier but, c'était de débarder. On avait pour ça des charrettes à deux roues avec deux petites vaches morvandelles, très habituées à la chose, trapues, qui se faufilaient, qui allaient jusqu'à ce qu'on appelait des ports de flottage.
Comme celui qu'on voit dans le roman.
Voilà, port de flottage, commençait une opération qui s'appelait le marquage. Ouais. Avec un burin, chaque bûche était tapée à droite et à gauche, parce qu'on repérait ainsi, comme ça, le propriétaire. Tout ça, ça allait se balader à Paris, il fallait les retrouver.
Et donc alors pour revenir aux flotteurs, si tu me permets, donc les flotteurs, donc ils sont de la Nièvre, ils sont de la région.
Oui.
Donc après, ils naviguent avec leur train, ouais, jusqu'à Paris, et puis ils arrivent à Paris, ils débarquent le bois. Et donc là, ils sont dans un autre monde, en
quelque
sorte.
Oh oui, ils sont dans Paris.
Ouais.
Ils sont dans la monarchie de Juillet, quand commence le roman, c'est-à-dire dans un moment où le monde ouvrier tire la langue. Ça lui arrive souvent, mais il tire la langue.
On est à la veille de la révolution de 1848.
Voilà. Il y a quand même 89 qui est passé par là, qui a remué beaucoup les idées. N'oublions pas que Clamecy n'est qu'à 200 km de Paris, même si à l'époque ça faisait un peu loin. Aujourd'hui, c'est à côté. Donc, ils arrivent dans ce milieu qu'ils n'ignorent pas. C'est ce qui leur a ouvert l'esprit, d'ailleurs, beaucoup. Quand ils arrivaient à Paris, ils déflottaient le train.
Donc, c'est aujourd'hui, c'est sur les berges de la Seine, oui, l'Arsenal. Oui.
Tout au long, d'ailleurs. Mais le pont de la Tournelle, premier, venant de Clamecy, on allait au pont de la Tournelle. Et là, il y avait des...
Oui, ça nous rappelle que Paris était un port.
Oui, c'était un port. Ouais. Et il y avait une circulation fluviale abondante. Quand on voyait arriver ce monstre de 72 mètres sur 5 mètres de large, les petits bateaux se mettaient de côté. Hein, quand les gars... Et donc, il y avait un personnel parisien qui déflottait. C'est-à-dire, on défaisait le train. Je vais être bref, mais dire quand même que ce train... Quand j'ai prononcé plusieurs fois le mot d'écologie, ce train est phénoménal parce que il transporte l'énergie, on n'en consomme en pas. C'est le flotteur avec ses petits bras
qui oriente le train.
Il le pousse pas, c'est le courant d'eau qui pousse. Hein. Et il a derrière lui à 72 mètres de là un petit homme, son gosse la plupart du temps. À qui il donne des ordres pour aller à droite, à gauche, Uedia. Hein. Et les bûches sont attachées entre elles. On n'a pas dit ça, mais il faut bien imaginer que tout ça s'est ficelé, sans ficelle. La ficelle, elle est prise dans la forêt. C'est des petites bandes comme de l'osier, quoi. Que les tordeuses, les femmes des marins, là, elles tordaient 7 ou 8 branches comme ça, et puis elles entouraient les bûches les unes avec les autres, bien serrées, tout ensemble ne devait pas... Parce qu'il y avait des risques hein, sur le flottage.
Très dangereux, oui.
Très dangereux, très dangereux. Il y avait des morts, beaucoup de morts. Alors oui.
Peut-être une autre question, puis...
Vas-y, vas-y.
Il ne faut pas qu'on raconte la fin du livre, mais on peut quand même dire que...
Sûrement pas.
Qu'il y a la révolution de 1848... Et ce qu'on voit aussi, c'est que, y compris cette révolution écrase les ouvriers en juin 48 à Paris, alors que les ouvriers qui avaient renversé la monarchie de juillet, sans révéler le dénouement du livre, est-ce que tu peux nous évoquer aussi ce que le livre montre de cette circulation des idées par les flotteurs entre la capitale, Clamecy, et comment il y a une certaine transmission qui se fait de la contestation politique, des idées nouvelles, du socialisme, enfin...
Déjà au départ, je te suis là, au départ, la population de Clamecy, qui vit du flottage. Les flotteurs sont des Clamecycois, mais tous ceux qui travaillent avec eux sont des Clamecycois. Ce sont des gens qui ont, je le disais au départ, et qui ont l'esprit ouvert parce que c'est pas comme le paysan dans son enclos ou dans sa ferme, hein, qui ne bouge pas, le bouseux. Hein. Eux, ils ont le ciel ouvert devant eux. Et quand ils arrivent à Paris, ils ont la vie ouverte devant eux. Et ça bouge à Paris. Hein, depuis 89, notamment, ça bouge tout le temps. Et les idées nouvelles, ce qu'on appelle les idées nouvelles à l'époque, ils ne sont pas, faute de les entendre, d'y adhérer ou de ne pas y adhérer, la plupart du temps, ils y ont adhéré. Ce qui fait qu'ils ont, à Clamecy même, développer des grèves en 32, en 1832, en 37, en 41, grande grève en 41, phénomène pas très connu en France. Hein. Mais on a là vraiment peut-être les premières grèves, grandes grèves ouvrières. Hein. C'est eux qui travaillent par la force de leurs muscles. Ce sont vraiment, pour reprendre un mot familier au vocabulaire, ce sont les prolétaires. Ce sont les prolétaires qui comme ça, sont soumis aux caprices des propriétaires, hein, qui les payent avec des queues de radis, donc qui sont vraiment à l'écoute de ce qui peut se passer dans Paris, qui sont un peu, qui sont, comment dire, on leur bourre pas la tête à ces gens-là, mais enfin ils entendent. Ils voient bien que les ouvriers parisiens, ils bougent, ils n'hésitent pas à faire des révoltes aussi. Il y a eu 1830 quand même, n'oublions pas, hein, aussi. Donc, quand ils reviennent à Clamecy, ben, ils ont ces idées-là dans la tête, et il y a une idée qui court, et que les intellectuels de la région, il n'y a pas que des flotteurs hein, dans la région de Clamecy, sont sensibles aux idées républicaines. Le mot république a sonné fort en 89. Et le mot république, il tient toujours très fort dans leur tête, dans la tête des bourgeois aussi. Parce que eux, par peur, les autres, par espoir. Donc, quand se profile l'idée de résister à Louis-Philippe, leurs idées ont bien suivi, ça, c'était bien dans leur ligne, et ils étaient à l'écoute, à l'affût de tout ce qui se passait dans Paris. Ils étaient les télégraphistes, hein. Et ils ont suivi avec beaucoup d'attention les événements marqués à cette époque-là, avant 47, les événements qu'on a appelés la campagne des banquets, par exemple. Hein. Il y a eu 70 banquets en France, à Dijon notamment.
Pour contourner l'interdiction des réunions publiques.
Voilà. Hein, le roi, oui, avait interdit les réunions publiques, contrôle de la presse, enfin, ça devenait vraiment vicé. Hein, avec un ministre comme Guizot, avec qui on ne plaisantait pas, et qui a été obligé d'être remplacé par Mollet, qui portait bien son nom d'ailleurs, qui n'a pas fait le poids, et qui s'est mêlé d'interdire ces banquets républicains, entre guillemets. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres, ça a été l'interdiction du banquet parisien, dans le 12e, je crois, en 1848.
D'accord. En février. Donc voilà, donc en fait, un roman qui nous mène du monde des flotteurs de bois jusqu'à la révolution de 1848 et au-delà. On va pas en dire plus.
Oui, parce que
voilà, il faut lire le roman pour le découvrir. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir accordé cet entretien à Lutte Ouvrière sur ce roman, donc Le Grand Flot, récemment réédité par Les Bons Caractères.